Democracy.
Democracy. Démocratie.
La France, c'est ce que l'on appelle une république démocratique.
Où est la démocratie, mes chers collègues?
Non, la France n'est plus une démocratie, là, on fait tout semblant.
C'est, encore une fois, surtout un régime en perdition.
Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil.
Révolte! La République, c'est moi!
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Une réforme des retraites maintenue envers et contre tous.
Un déferlement de 49-3.
La chaise vide de Matignon pendant la trêve olympique.
La France, pays des droits de l'homme, est qualifiée de démocratie défaillante.
Mais qu'en est-il vraiment?
Les gouvernements cultivent la politique de l'autruche face aux mobilisations.
Pendant que la répression policière étouffe la voix du peuple.
Contraints de trouver d'autres modes d'action, les militants écologistes désobéissent pour se faire entendre.
La défiance des citoyens envers ses représentants fait la courte échelle aux théories du complot.
Le monde politique, qui dresse barrières et obstacles aux femmes, demeure un royaume masculin.
Alors, manifester sert-il encore à quelque chose?
La désobéissance civile est-elle le dernier recours du peuple pour sauver la planète?
Une démocratie sans maintien de l'ordre est-elle imaginable?
Comment le complotisme attise-t-il le chaos politique?
Pourquoi les institutions démocratiques ferment-elles leurs portes aux femmes?
Immersion dans les entrailles de notre démocratie pour en comprendre les dérives.
Démocrache, une série documentaire en 5 épisodes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes.
Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé sur le bûcher.
C'est quoi le Deep State?
Pedowood? Enfin, Hollywood?
La CIA? Le FBI?
Rothschild, Soros, les Clinton aussi, on le sait. Les nazis, en fait, n'ont jamais disparu. Il y a toujours des nazis et ils sont de mèche avec eux.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Dans quelques jours aura lieu l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Pour certains, cette élection est une victoire des républicains, mais aussi et surtout une victoire du complotisme. C'est le cas de Pauline Pénanec, responsable des podcasts de France Info et coproductrice de Complorama.
C'est la victoire du complotisme et surtout parce qu'il s'est servi des théories du complot dans sa campagne, il s'est servi des fake news et donc les Trumpistes sont persuadés que la vérité de Trump est la vérité, on s'embarrasse même plus des faits en fait.
Pas pris au sérieux, le complotisme a longtemps été considéré comme loufoque, voire surréaliste. Or, avec la nouvelle élection de Trump, on constate que ce phénomène n'est plus si marginal que ça.
D'ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreux experts mettent en lumière des mouvances complotistes et les détricotent. Mais pourquoi les débunker? Quels dangers les théories du complot peuvent-elles engendrer sur nos démocraties? Pourquoi doit-on craindre leur diffusion massive?
Si la victoire de Trump représente une victoire des complotistes, pouvons-nous prendre le problème dans l'autre sens? Comment les politiques utilisent les théories du complot à des fins électorales? Comment la crise démocratique alimente-t-elle le complotisme? Les mensonges politiques jouent-ils un rôle là-dedans? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans ce 4e épisode intitulé « Le gouvernement » réalisé par Juliette Rigaud et Maxime Cornu.
Mais concrètement, une théorie du complot, c'est quoi? Chaque chercheur ou journaliste spécialisé dans le complotisme a sa propre définition. Mais toutes tournent autour du même aspect. Un récit alternatif qui remet en cause un discours officiel. Rudi Rechstadt, politologue et fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme, Conspiracy Watch, l'a défini ainsi.
La théorie du complot, c'est un récit alternatif qui propose une explication à un événement, un fait, un phénomène, concurrent de la version dite officielle. Et évidemment, sa spécificité, c'est d'expliquer les choses par un complot. Voilà, mais de l'expliquer abusivement, parce que c'est le complot dénoncé et jamais prouvé. Et surtout, c'est une thèse, une hypothèse, un récit qui est moins capable d'expliquer le réel.
Depuis quelques années, les théories du complot prennent de l'ampleur. Mais ce phénomène n'est pourtant pas inédit. À la différence qu'aujourd'hui, mais surtout depuis l'apparition d'Internet, les théories du complot se répandent comme une traînée de poudre.
Les attentats du 11 septembre auraient été orchestrés par l'État américain.
L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy serait l'œuvre de la CIA.
L'homme n'aurait jamais marché sur la Lune.
La Terre ne serait pas ronde, mais bien plate.
Et les vaccins contre la Covid-19 seraient en réalité un prétexte pour nous injecter des puces 5G.
Pire encore, ils auraient pour objectif de diminuer la population sur Terre.
Les exemples de théories du complot sont nombreux et peuvent paraître tous plus farfelus les uns que les autres. Pourtant, leurs dangers sont bien réels. Entre deux expressos, Victor Motin, journaliste pour le média Conspiracy Watch, détaille les risques de ce type de discours.
C'est difficile de discuter avec ces gens-là, parce qu'on n'a plus de terrain commun d'entente. On s'accorde plus sur des choses aussi basiques que la réalité historique et la réalité des faits. Et je pense que c'est vraiment là le danger des théories du complot, et plus globalement des fake news et de ce qu'on appelle la post-vérité, c'est de faire que les gens n'ont plus de terrain commun pour faire société et donc pour débattre et donc pour faire vivre la démocratie.
Cette perte de récit et de sens commun a déjà engendré des événements traumatiques pour nos sociétés démocratiques. Vous vous souvenez certainement de l'élection américaine de 2020.
Joe Biden l'a remporté, mais pour Donald Trump et ses sympathisants, le vote aurait été truqué. Une thèse complotiste qui a conduit à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Au téléphone, Rudy Rechstadt, fondateur de Conspiracy Watch, nous l'explique.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, ça va bien, vous m'entendez ?
Très bien.
Lorsque vous ne partagez plus la même réalité commune, au point de ne plus même être d'accord sur la matérialité des faits, notamment qui a gagné l'élection, le débat démocratique devient un dialogue de sourds. Vous ne pouvez plus trancher vos désaccords puisque vous n'êtes même plus d'accord sur la réalité sur laquelle vous débattez. Et donc, qu'est-ce qui reste pour vous départager ? Le rapport de force brutal. Et ça s'est matérialisé très concrètement par l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. On a des partisans de Donald Trump qui se persuadent qu'on leur a volé l'élection et que le vrai président élu, c'est Donald Trump, c'est pas Joe Biden. Donc là, pour trancher leurs désaccords, ils vont prendre le Capitole parce qu'en démocratie, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en France aussi. L'insurrection, c'est non seulement un droit, mais un devoir. Si on vous vole l'élection, c'est normal de s'insurger.
Donald Trump clame une nouvelle fois que l'élection lui a été volée et donne cette consigne à la foule de ses adorateurs.
On va marcher jusqu'au Capitole. Parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force.
Quand même, le 6 janvier 2021, c'est la première fois qu'aux États-Unis, vieille démocratie, une alternance politique se déroule de manière aussi tragique. Il n'y a jamais eu de mort lors d'une alternance politique aux États-Unis. C'est la première fois. Il y a eu 5 morts quand même au Capitole.
Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir connu ce type d'événement. En 2023, au Brésil, des partisans de Jair Bolsonaro ont tenté un coup d'État à la suite de la défaite de leur leader. Pire, ils avaient fomenté un plan visant à assassiner le nouveau président élu, Lula. Des projets dont Bolsonaro lui-même avait connaissance.
Alors, peut-on craindre de voir apparaître ce type d'événement en France ? Marie Pelletier, historienne spécialisée sur les questions de propagande et de complotisme, s'arrête un instant sur le mouvement des Gilets jaunes.
En tout cas, en France, moi, je rappelle souvent le précédent des Gilets jaunes parce que, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, ça arrive après, un petit peu après l'élection de Trump et après le Brexit. Mais en fait, c'est exactement le même mouvement. Hein. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui se met en branle, justement, sur les réseaux sociaux, qui sort dans la rue au sens propre et qui, à un moment donné, veut en découdre. Alors, ça n'a pas vraiment abouti, dans le sens que, notamment, quand il voulait aller couper la tête de Macron ou que sais-je, bon, on sait bien que ça n'a pas eu lieu, ou bien quand il voulait monter sur l'Élysée, mais je veux dire que l'imaginaire politique qui était présent était celui-là. En fait, c'est un imaginaire insurrectionnel. Mais insurrectionnel, pas dans le sens de la Révolution française, c'est insurrectionnel à l'égard de la démocratie.
Ce rapprochement pourrait paraître tiré par les cheveux, mais Marie Pelletier n'est pas la seule à le faire. Quand nous avons posé la question à Rudy Rechstadt, lui aussi a évoqué ce mouvement social.
Vous savez, au moment du mouvement des Gilets jaunes, donc c'est antérieur au Capitole, mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est fin 2018, début 2019, on a eu un moment, je crois que c'était décembre, je ne sais pas le 1er ou le 2 décembre 2018, c'est-à-dire la veille ou le jour de la vandalisation de l'Arc de Triomphe. par des gilets jaunes. On sait qu'il y a un groupe de 3000 gilets jaunes, je crois, qui sont passés à proximité de l'Élysée ce jour-là, et qui n'ont pas bifurqué dans la rue où il y a l'Élysée. Mais on a eu des témoignages de policiers qui disent qu'ils avaient décidé de bifurquer et d'investir l'Élysée, on n'aurait pas pu les arrêter. Ils ne se seraient pas mis à tirer sur les gens, et ils n'étaient pas suffisamment nombreux, de toute façon, pour empêcher 3000 personnes de rentrer dans l'Élysée. Donc, sous cette forme-là, oui, on aurait pu connaître ça, déjà.
Alors, même si personne n'a encore pris d'assaut l'Élysée, ce qu'il s'est passé à cette époque montre que la France n'est à l'abri de rien.
On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril ? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë ? L'aventure est-elle au coin de la rue ? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager ? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez le Gouvernement, épisode 4 de la série Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Le mouvement des Gilets jaunes illustre la défiance ressentie par une partie de la population à l'égard des institutions démocratiques. Le cri d'un peuple qui ne se sent pas écouté.
Bah, c'est l'image du ras-le-bol des Français, tout simplement. Ils se foutent de notre gueule.
Ces événements nous ont amenés à nous questionner. Cette crise démocratique et cette défiance peuvent peut-être conduire à adhérer aux théories du complot.
Une personne qui adhère au conspirationnisme, elle adhère à un projet et elle adhère à un projet qui va la mettre en lien avec d'autres personnes. C'est justement ce qui a expliqué en partie le succès du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'est que les Gilets jaunes le disaient. Hein, ils disaient qu'en fait, c'était... À un moment donné, ce que le mouvement les a mis en mouvement, justement, il leur a fait rencontrer d'autres personnes et autour d'un projet politique. Parce que malgré tout, la défiance, c'est un projet politique. Hein. Je veux dire, c'est quand même, ça reste quelque chose de l'ordre de la conviction. Moi, je pense qu'en creux, ça montre ce que les démocraties ne proposent plus assez. C'est-à-dire, ne proposent plus assez de récits mobilisateurs enthousiasmants qui nous font passer les nuits en plein décembre sur le rond-point, parce que quand même, il faut y croire vachement pour pouvoir le faire, et qui nous permet d'être en lien avec une communauté autour d'un même projet. Si en démocratie, on n'est plus capable de répondre, de proposer ça, le conspirationnisme permet ça.
Sylvain Delouvet, maître de conférences en psychologie sociale à l'université Rennes 2, nous a reçus dans son bureau situé sur le campus de Villejean. Pour lui, le complotisme et la défiance sont aussi étroitement liés.
Bonjour. On est passé aujourd'hui à l'étape, pas forcément d'après, mais supérieure, de la défiance. C'est-à-dire que là, on remet en cause la fonction même qu'occupe l'individu. Et la question ici est maintenant de savoir qui est l'œuf et qui est la poule. Est-ce que c'est la défiance qui entraîne du complotisme ? Est-ce que c'est du complotisme qui entraîne la défiance ? Bah, en fait, on se sort toujours de ce type de question par une petite rhétorique en expliquant que les deux sont fortement interreliés. Parce que selon les individus, évidemment, ça peut être une première défiance de la politique qui les a amenés à tomber dans une forme de complotisme, quand d'autres... Ce sont des visions complotistes, par exemple, dans le domaine sanitaire qui les amènent à pousser ça dans le domaine politique ou dans le domaine scientifique ou journalistique.
Ce virus, il est fait pour réduire la population parce qu'on est trop nombreux sur Terre, mais réveillez-vous, tout est calculé.
Difficile donc de savoir lequel entraîne l'autre, même si cette défiance n'est pas l'unique cause de l'adhésion aux théories du complot, ni même une justification au complotisme, cette question mérite tout de même d'être creusée.
Parce que oui, cette défiance, elle est tout de même bien présente dans nos sociétés démocratiques. et les mensonges en politique de grande envergure, comme l'existence d'armes de destruction massive en Irak en 2003, n'ont fait qu'accroître ce sentiment. Du moins, c'est ce qu'en pensent Victor Motin et Marie Pelletier. Mais pour Rudi Rechtstadt, cet argument doit être pris avec plus de pincettes.
Les mensonges politiques, il y en a toujours eu, il y en a toujours eu en démocratie, et il y en aura encore. Et c'est pas parce qu'on est, alerté de ces mensonges qu'on devient complotiste. Je suis pas sûr que ça fasse du bien, je suis d'accord, je pense que ça accroît la défiance, mais je pense pas que ce soit la racine première du complotisme. Voilà. Je crois même le contraire. Je pense qu'on peut ne pas être complotiste du tout et savoir pourtant qu'il y a du mensonge en politique. Vous voyez, et l'assumer, c'est une fausse raison. Voilà. C'est pas une bonne raison de devenir complotiste, le fait qu'il y ait du mensonge en politique. Ça, c'est un argument d'habillage idéologique des complotistes qui disent « Ah oui, mais regardez, on nous a tellement menti qu'on a dû nous mentir là-dessus aussi. »
En tirant le fil, nous nous sommes rendus compte que les politiques trouvent, eux aussi, leur compte dans ce phénomène qu'est le complotisme.
Je dément catégoriquement, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger.
I did not have sexual relations.
Il mentait sous serment. 100 leaders of anthrax.
Il n'est pas lui-même parfaitement convaincu de ce qu'il dit.
Pour Marie Pelletier, le nouveau président des États-Unis en est l'exemple parfait.
Il doit sa victoire en grande partie au réseau conspirationniste américain, ça c'est très clair. Quelqu'un comme Alex Jones, par exemple, dont on dit qu'il a joué un rôle majeur dans l'élection de Trump, puisque c'est un influenceur américain conspirationniste qui est suivi par des millions de personnes et qui a réussi à présenter Trump comme une figure anti-système, une figure de résistance, qui est le propre, évidemment, la plus-value du récit conspirationniste, et donc à porter sa candidature avec une force dont Trump a bénéficié. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour moi, Trump n'est pas la cause du complotisme, enfin de la propagation du complotisme, mais plutôt un symptôme. En fait, c'est un produit d'une époque où le complotisme, malheureusement, non seulement s'est banalisé, mais est devenu une arme politique de discrédit de l'adversaire et de prise de pouvoir, bien évidemment.
Mais Trump ne s'est pas seulement entouré d'une petite armée d'influenceurs conspirationnistes pour mener sa campagne. Il a également orienté autour de sa théorie du complot favorite, le Deep State, ou État profond en français.
Somo Valise, signature du nouveau président des États-Unis, désignerait un État occulte dans l'État, qui tiendrait toutes les ficelles du pouvoir. Victor Motin, journaliste pour Conspiracy Watch, détaille les avantages que Trump trouve là-dedans.
Les politiques ont un avantage électoral à tirer en diffusant des théories du complot, que ce soit du coup en ciblant d'autres personnalités politiques ou en se mettant en avant via certaines théories du complot. En étant, regardez, on est les seuls à en parler. Voilà, je dis tout haut la vérité, ce que tout le monde pense tout bas. Dans les autres qui sont des pions du système, vous le diront jamais, mais moi je suis pas, moi je suis un esprit libre. C'est typiquement Trump qui parle de l'État profond. Et donc ça sert à se placer comme étant différent des autres, comme étant un éveillé par rapport aux corrompus.
Trump a donc fait le choix de se positionner comme une figure anti-système et utilise les théories du complot comme moteur de sa politique. Mais en France, existe-t-il des exemples similaires? Difficile à dire. Mais pour Rudi Rechtstadt, fondateur de Conspiracy Watch, il existe tout de même un exemple typique français, Nicolas Dupont-Aignan.
Vous prenez le cas d'un quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, qui a une trajectoire intéressante. Nicolas Dupont-Aignan, au départ, c'est un souverainiste, mais qui est membre de l'UMP, donc parti de la droite gaulliste classique, et qui a une carrière politique relativement, poussive. C'est un second couteau, Nicolas Dupont-Aignan. Et puis, ces dernières années, depuis, j'aurais du mal à le dater, mais je dirais depuis une dizaine d'années, il a muté, réellement. Il y a un premier Nicolas Dupont-Aignan, qui est un type, un républicain assez lambda, quoi. Et puis, il y a un second Nicolas Dupont-Aignan, qui est un leader populiste et complotiste.
Et vous avez des journalistes comme Julien Pin, comme Tristan Mendès-France, comme David Medioni, qui manipule l'opinion en faisant croire qu'ils sont des fact-checkers, c'est-à-dire qu'ils vérifient la vérité. En fait, c'est une inversion accusatoire. C'est extrêmement grave. Ils passent leur vie à désigner des cibles, à salir des individus, moi compris, le professeur Raoult et d'autres. Ils accusent de complotisme.
Et c'est intéressant parce que s'il n'avait pas pris ce tournant-là, on ne parlerait probablement plus de lui aujourd'hui. Donc il existe politiquement aussi grâce à ça.
On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer. Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc? Pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron? On nous cache tout, on nous dit rien.
Vous êtes toujours sur Canal D, vous écoutez Le Gouvernement, épisode 4 de la série Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
La victoire de Donald Trump en 2024 marque une étape importante pour la complosphère mondiale. Si pour eux cette élection représente une victoire contre l'État profond et les médias traditionnels, pour d'autres, c'est aussi, et peut-être surtout, une victoire du complotisme.
Les agents non élus de l'État profond défient les électeurs pour imposer leurs agendas secrets. Ils sont une menace pour la démocratie.
Cette dynamique reflète une crise démocratique profonde. Les faits et les institutions sont rejetés au profit d'un récit basé sur l'émotion et la défiance. Victor Motin met en lumière cette double lecture de la victoire de Trump.
Il y a, à part quelques petites exceptions dans les gens que je suis régulièrement, et quand même sur beaucoup de gens, une impression partagée de victoire suite à l'élection de Donald Trump. De victoire sur l'État profond, de victoire sur les woke, de victoire sur les journalistes, les fact-checkers, de victoire sur les médias traditionnels. Et en tout cas, alors, voilà, c'est perçu comme une victoire, et je pense que ça l'est. C'est une victoire du complotisme. C'est une victoire de la désinformation, c'est une victoire aussi du populisme.
Avec des alliés influents comme Elon Musk, dont les publications sur X génèrent des millions de vues, Trump dispose d'une véritable armée d'influenceurs capables de façonner l'opinion publique à une échelle inédite.
Lors de son dernier mandat, il a diffusé à lui seul plus de 30 000 fake news. Pauline Pénanec, responsable des podcasts de France Info et coproductrice de Complorama, évoque l'une des figures complotistes qui gravitent autour de lui, Tucker Carlson.
Quand on regarde aujourd'hui l'équipe qu'il a autour de lui, il s'entoure de figures conspirationnistes aux États-Unis. Il va sur des podcasts animés par des figures de la complosphère aux États-Unis qui maintenant vont être, je pense, adoubés par l'administration Trump. Enfin, je pense à Tucker Carlson qui a un podcast sur lequel il balance des fake news à longueur de temps. Et aujourd'hui, il peut dire ce qu'il veut sur sa chaîne et en fait, il y a des millions de personnes qui l'écoutent.
L'ancienne campagne de Trump, en 2015, a également été le terreau fertile d'une mouvance complotiste qui s'est désormais exportée en Europe, QAnon. Cette nouvelle élection va-t-elle impulser une nouvelle mouvance complotiste ? Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, émet des doutes.
Moi, si j'étais complotiste et que j'avais les manettes, peut-être que je réactiverais là, le compte Q, etc. Mais j'ai l'impression que ça y est, c'est un épisode qui est derrière nous et que ça va prendre d'autres formes maintenant. La question qui va se poser, c'est que vont dire les complotistes ? Est-ce qu'ils vont dire Trump fait partie du système et en fait, il est lui-même dirigé par l'État profond, etc. Donc, une sorte de cannibalisation des complotistes, vous voyez, où ils se dénoncent entre eux, etc. C'est une hypothèse possible. Ou est-ce qu'ils vont continuer à considérer que Trump est leur champion, d'autant qu'il ne pourra pas se représenter normalement, au terme de ce mandat. Et que Trump continue à être en guerre contre cet État profond, insaisissable, etc., qui risque de revenir, etc. Donc, je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse. Je pense qu'ils vont soutenir Trump.
Alors à quoi pouvons-nous nous attendre avec le nouveau mandat que va entamer Donald Trump ? Sylvain Delouvet, chercheur en psychologie sociale à l'université Rennes 2, envisage le pire.
Donald Trump nous a appris à nous attendre à tout. Alors attendons-nous à tout.
La majorité silencieuse est de retour. Nous allons reprendre ce pays en pleine tête.
Ceux qui l'ont approché disent qu'il a des moments de folie pure, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il dérape.
J'aimerais leur bombarder la gueule.
On pourrait penser qu'en fait Donald Trump c'est le Joker dans Batman, c'est-à-dire que le type est complètement dingue, fou, qui maîtrise pas.
Oh, je ne sais pas ce que j'ai dit. Oh, je ne m'en souviens pas.
Il est un clown qui fait un show. Il est en spectacle permanent.
Complètement mégalomane.
Je serais bien en peine de dire ce qui va se passer. Je sais tout ce qu'on peut craindre. Ce qu'il va lui-même utiliser, d'ailleurs, d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'il sait très bien que son imprévisibilité sur un certain nombre de sujets, on l'a vu lors de son premier mandat avec son utilisation de Twitter, enfin X maintenant, mais avant Twitter, où il était capable de tweeter tout et n'importe quoi. Et donc, il utilise aussi son imprévisibilité. C'est une forme de menace. Vous imaginez, vous êtes en discussion, vous devez avoir un accord commercial, politique avec quelqu'un, et la personne qui est en face de vous, vous ne savez pas si, au bout de 2 minutes, elle est capable de sortir une arme et de tirer sur tout le monde, ou de dire « Ok, top, tape-la dans la main ».
C'était Maxime Cormier et Juliette Rigaud dans Le Gouvernement, 4e épisode de la série documentaire Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants en master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre Music for Body de Flokendorf, A New Error de Moderat, On nous cache tout, on nous dit rien de Jacques Dutronc et Lux Aeterna de Clint Mansell. Vous avez également entendu un extrait de Jean-Marie Bigard sur France Bleu Paris du 28 octobre 2020, un extrait du débat entre Kamala Harris et Donald Trump du 10 septembre 2024, le documentaire USA 2024 de Martin Veil sur TMC, une vidéo vraie ou fake de France Info intitulée « Qu'est-ce que l'État profond ?» du 25 septembre 2020, un extrait du journal de 13h de France 2 du 22 janvier 2021, un extrait de France 24 intitulé « Une semaine après l'investiture de Lula » du 9 janvier 2023, un extrait de l'émission « C'est à vous » du 18 mars 2019, la story de Kim Glo publiée sur le HuffPost le 13 novembre 2020, un extrait du documentaire « Mensonges en politique » diffusé sur France 5 le 29 septembre 2024, le discours de victoire d'Emmanuel Macron de 2017 sur TF1 Info, un extrait de la vidéo YouTube « Nicolas Dupont-Aignan décrypte l'actualité numéro 73 » et enfin le documentaire de Speak Alive « Donald Trump, l'invincible » publié le 8 février 2024.
Merci à tous nos intervenants. Demain, Lynn Baudrier et Camille Curnier vous parleront de la place des femmes en politique dans l'épisode « Sans état d'âme ». Bonne journée sur Canal V.